En prolongement donc de l'introduction de la semaine dernière, les publications fondamentales, alors à tout seigneur, tout honneur, il y a donc le livre, la publication de colloques par Étienne de la Vessière, ici présent, et Éric Trombert, Les Sogdiens en Chine, un colloque en 2005, qui reste encore aujourd'hui. Je dirais, c'est quand même aujourd'hui encore le recueil le plus complet sur cette question des colonies sogdiennes en Chine, avec... Tu n'as pas mis Wertmann, là, pour le moment. Non, mais Wertmann, ça concerne uniquement les sogdiens en Chine. Oui, il y a aussi le livre de Patrick Wertmann, qui est paru il y a 3 ou 4 ans, qui a le même sujet, qui est une approche vraiment centrée sur l'histoire de l'art, l'archéologie, alors que dans ce recueil d'articles, envisage absolument tous les aspects. Bon, ensuite, il y a le livre d'Étienne de la Vessière, Histoire des marchands sogdiens. Alors, en fait, on utilise à la fois la dernière édition française en date, 2016, qui en fait n'introduit pas beaucoup de modifications par rapport à la précédente. Et on utilise aussi, et généralement dans les publications internationales, on cite la version anglaise de 2006, je crois, parce qu'évidemment, c'est elle qui est toujours citée dans les pays anglo-saxons. Il paraît, enfin, l'auteur me contredira si ça n'est pas exact, que la version aujourd'hui la plus au point serait la version japonaise, qui a été traduite par notre collègue Etsuko Kageyama, qui est souvent venu ici, mais en concertation étroite avec Étienne, et elle a conduit, je crois, à trouver quelques contradictions, quelques améliorations possibles. Alors, sinon, donc, Huna Sourcebook, c'est c'est un groupe de travail. Finalement, ça aboutit à un colloque à Budapest. C'est un ouvrage collectif qui, en fait, explicitement prend la suite du livre édité par Harry Falk, Kushan Histories, issu d'un colloque à Berlin, je crois, en 2013. Ce livre prend la suite pour les époques, disons, post-Kushan, qui nous intéresse directement pour le cours ici. Alors là, toutes les sources de toute provenance sont reproduites, traduites et discutées, gréco-romaines, indiennes, enfin toutes les inscriptions indiennes sont discutées, sources locales en sogdien et en bactrien, tradition iranienne passée par l'historiographie arabe, un gros morceau, c'est le morceau sur les sources chinoises, dont le présent cours est en grande partie issu. Ce chapitre a été fait en collaboration entre Chao Zhong et Galambos, avec des contributions par Inaba, Deg et autres, etc. Bon. Ce qu'il n'y a pas dans le Huna Sourcebook, ce sont les sources numismatiques. Alors il faut faire très attention à cela. De même qu'elles ne sont pas dans Kushan Histories. Pourquoi ? Parce que pour dire les choses très franchement, le dialogue est apparu difficile avec les numismates qui sont pas d'accord entre eux, notamment sur la chronologie, et qui ne sont d'accord avec personne d'autre que les numismates, assez souvent. Le problème principal venait aussi de ce que ceux qui ont fait les publications les plus complètes, les plus détaillées pour les périodes en question, ce sont les numismates de Vienne. C'est justement avec eux que le dialogue chronologique est vraiment difficile. Ils ont leur raisonnement, qui est, qui est très bien argumenté, mais ils ont du mal à adapter leur raisonnement à des évidences qui ne sont pas à caractère numismatique. Voilà. Donc pour le moment, bon, évidemment, on espère que finalement l'unification se fera, mais il est apparu qu'il était trop tôt au stade de ce livre pour intégrer tout cela. Donc, Chao Zhong, tu continues là-dessus ?
Oui, il y a aussi beaucoup d'ouvrages chinois et japonais à consulter. Pour vous, je voudrais recommander d'abord un article par Yoshida Yutaka on the origin of the Sogdian surname Zhao Wu and related problems, publié dans la revue Journal Asiatique en 2003 et en anglais. De plus, les cartes dont sa contribution à ce livre de la même année sont propres pour notre sujet. Ce livre est publié par NHK, le Japan Broadcasting Corporation, et il s'agit à la route de la soie continentale et océanique. Quand on ouvre à chinois, une consultation de celle par Yu Taishan est indispensable. Ici à gauche, Yu 2005 est la version chinoise et originale de celle à droite, Yu 2014, a concise commentary on memoirs on the Western regions in the official histories of the Western and Eastern Han, Wei, Jing, and Southern and Northern dynasties. Ce sont les commentaires de lui sur les entrées dans les chroniques chinoises, y compris le Shiji, le Han Shu, le Jin Shu, etc., jusqu'au Sui Shu, au Nan Shi et au Bei Shi. Le contenu de ces deux livres est presque le même, bien que Yu Taishan ajoutait quelques notes supplémentaires dans la version anglaise. Enfin, notre choix pour la lecture de textes dont je donne les numéros d'après leur ordre dans le Tongdian.
Un petit insiste sur Yu Taishan. Le livre de Yu Taishan est aujourd'hui en Chine la Bible pour ces périodes. C'est vraiment la référence pour les textes. Bien. Dans le détail, alors il a d'énormes avantages, l'exhaustivité, puisque, comme je l'ai dit en fait la dernière fois, il reprend même aussi le Hanshu et le Ruanshu d'après la traduction disons, désormais classique de Hulzeve et Levé, sans les commentaires, mais là vraiment on a tous les textes. Un autre gros avantage, c'est que les formes reconstruites anciennes chinoises et moyennes chinoises sont presque systématiquement données. D'après, alors lui, il suit le système Pelé Blanc, hein, je crois. Oui. Donc ça, c'est très important. Bien, au niveau des identifications de lieux et du commentaire historique, ça doit être pris de manière critique. Il reproduit parfois des opinions qui ne sont plus d'actualité. Parfois, il donne des opinions personnelles qui sont contestables. En fait, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le terrain. Voilà. Il n'a pas une approche personnelle de ces régions d'Asie centrale. Je pense également qu'il ne lit pas le russe. Donc il est coupé de ce qui se fait sur le terrain. Alors voilà, il faut évidemment partir de Yu Taishan, mais je dirais la pertinence du commentaire par rapport à la pertinence des commentaires que donnait Chavannes en 1903 est inférieure. Mais nous verrons étape par étape ce qui peut être dit.
D'accord. Premièrement, l'entrée sur le pays de Kangju, mais en effet, elle contient la description de Chach dans l'époque de Jing, et le pays de Samarkand dans l'époque de Sui, puis le pays de Cao, Kabudan, le pays de He, Kushania, le pays de Shi, Kesh. Ces trois suivent immédiatement après Samarkand comme une sorte d'appendice. Celles sur Sui et Shi, ou Chach, apparaissent séparément et plus loin dans le même chapitre. Les formes en caractère chinois sont coloriées comme les couleurs utilisées sur les cartes suivantes. La raison de notre choix, c'est franchement parce que les six sont lesquels dans le tondien qui concerne la sogdienne proprement dite. Excuse-moi. En effet, seule une partie des pays dans le tableau de Yoshida sont y donnés sous la forme d'entrée spécifique. Il y a une entrée pour Han, Bukhara, mais celle-ci est confondue avec les données d'Arsacid et celle de Merv. Voici une carte japonaise publiée en 2003 par Yoshida, aimablement avec l'accord de lui. Après notre adaptation en français, c'est comme ça. Et ceux qui sont choisis pour notre lecture sont coloriés. Khan ou Samarkand en bleu, He ou Kushanian en verte, Cao en turquoise, Shi ou Kesh en jaune, et Shi Tashkent, ou plus préférablement Chach, en tant que son nom historique, est mis en rouge clair. Une autre carte excellente, c'est la carte 5 dans l'histoire des marchands sogdiens. Merci à Étienne de la Vessière pour cette image très claire, et je la colorie d'après la direction de France. Encore une fois.
Mais sans consultation d'Étienne. Choix qu'il n'approuvera peut-être pas complètement.
Oui. Oh. Donc, encore une fois, Kang en bleu, He ou Kushanian en verte, Cao en turquoise, mais il y en avait deux plus aussi nommés Cao dans la chronique de Tang. Et enfin, Shi et Shi en dehors. Je passe l'explication à France.
Oui, alors. Samarkand, Kang. Bon, j'ai fait aller la couleur sur toute l'île, enfin ce qu'on appelle l'île, enfin l'espace entre les deux bras, entre le canal du Dargom et le fleuve Zerafshan, en considérant que le canal du Dargom était contrôlé par le royaume de Samarkand. Bon, j'ai essayé de trouver des limites. Bon, c'est tout très arbitraire, mais enfin, j'ai mis les limites qu'on peut éventuellement proposer. Pour les limites nord des principautés, ben, j'ai tout simplement suivi la limite du mur qui bordait la Sogdiane au nord, mur sur lequel je vais revenir dans un instant, parce que voilà, ça c'est une limite, et une limite qui était peut-être aussi politique. Donc, Kushaniya, qui se trouve ici, donc à peu près à mi-chemin entre Samarkand et Bukhara. Petite incise sur le nom Kushaniya, ça vient évidemment des Kushans. Une hypothèse ancienne, c'est que l'Empire Kushan, dès 1er et 2e siècle, s'était étendu jusque-là. Il y a une autre hypothèse que je préfère, c'est que ce serait une fondation plus tardive, sous la dynastie des Kidarites, qui sont les derniers à avoir revendiqué le titre de Kushansha, dynastie qui règne au 5e siècle, sur laquelle je vais revenir. J'ai tendance à penser que c'est plutôt une fondation des Kidarites. Alors, le Cao occidental qui, je crois, dans le Suishu est le seul Cao, il n'y a pas d'autre Cao, c'est donc Ishtihan, on sait où est la capitale, Ishtihan-Tepe, ici. Ensuite, apparaît plus tard donc un pays qui ne figure pas dans le nom chinois, il n'y a pas de nom pour le. Enfin, plutôt oui, c'est pas dans les grands noms des principautés en chinois, mais le nom est transcrit, Kabudan Jacket, qui se trouve donc ici avec comme capitale un site. Ouais, Kabudan Jacket, en fait, c'est le nom de la ville, Ket. C'est le suffixe qui veut dire « ville » en sogdien. Et le site, je vais en parler dans un instant, il est probablement identifié. Quelques commentaires supplémentaires sur d'abord le mur. Alors, le mur est surtout conservé, disons, a été conservé il n'y a pas trop longtemps, assez largement et a été bien étudié dans la partie la plus à l'ouest, qui n'est pas sur cette carte, qui est autour de l'oasis de Bukhara. Mais il faut savoir que, au fil du temps, il est probable qu'il y a eu un système continu de murs qui allait jusqu'à la limite nord du Fergana. Alors, ce qui est ici, donc, en pointillé, c'est vraiment hypothétique. Et quand, je crois, le pointillé, voilà, on a des traits comme cela, des restes s'observaient encore il y a quelques décennies sur le terrain et sur les photos aériennes. Bon, il faut être très prudent. Alors, la partie occidentale du mur... En fait, est la seule qui est aujourd'hui réétudiée. Elle a été étudiée par certains archéologues de Samarcande, notamment Adeloff, mais aujourd'hui c'est principalement notre collègue de New York, Søren Stark, qui a une mission archéologique permanente disons, dans la partie nord-est de l'oasis de Bukhara, et il a été amené à reprendre la question de la datation du mur d'après des sondages archéologiques. Alors, il a fait plusieurs articles. Le plus complet est paru en 2015, et c'est en russe. Hein, c'est dans un article commun avec Mirza Ahmedov, Jamal Mirza Ahmedov, qui est le principal archéologue ouzbek travaillant sur l'oasis de Bukhara, toujours très actif. Et leur article, donc je traduis, premier résultat des nouvelles recherches du mur d'oasis du Sogde de Bukhara, nom local Dvore Kampirak, paru dans un recueil sur Bukhara, l'oasis de Bukhara et ses voisins, à l'Ermitage en 2015. C'était issu d'un colloque. Alors, dans l'oasis de Bukhara, le mur est appelé Kampirak. Alors, Kampirak, en persan, ça veut dire la jeune fille. Pir veut dire vieux. Kampir veut dire pas beaucoup vieille, ce qui veut dire jeune. Bien. C'est cette toponymie qu'on trouve partout, ces châteaux qui s'appellent les 40 jeunes filles, la princesse, etc. Ce sont les légendes omniprésentes sur la fille du roi qui est assiégée par l'ennemi et qui tombe amoureuse de l'adversaire et qui livre le mur. Ce sont des légendes qu'on trouve absolument partout. Ça n'éclaire en rien sur les circonstances historiques de la construction de ces murs. Les sondages de Stark et de ses prédécesseurs tendent à montrer, enfin, d'après la céramique qu'on trouve dans le mur, qu'il semblerait dater de l'époque heftalite. Les céramiques qu'on trouve pas très abondantes, fin 4e, 5e siècle. Et, disons, ce serait logique, parce que les heftalites avaient des adversaires au nord. Hein, ce sont ceux qui vont finir par mettre fin à l'Empire heftalite, les Turcs. Un tel effort n'aurait pas grand sens à l'époque de l'Empire turc, où il n'y a pas véritablement de frontière avec la steppe. Sauf qu'évidemment, ce type de mur n'est pas seulement à destination militaire, il peut avoir aussi une destination écologique, hein, pour éviter l'avancée des dunes, et puis également, certainement, ça pouvait aussi servir contre les voleurs de troupeaux, etc. Alors, on a cette datation archéologique probable, et puis on sait, alors là, le texte arabe de Massoudi, qu'en 782, le mur a été reconstruit ou renforcé. Sous la direction d'un personnage qui n'était pas à Bukhara, qui était l'héritier des derniers rois de Samarcande et qui en fait était à Ichtikhan. Mais probablement il contrôlait la corvée villageoise, ce qui lui permettait d'offrir ses services aux gouverneurs arabes de l'époque. Pour les parties, les extensions les plus orientales, on est dans un grand brouillard, surtout qu'en fait pratiquement plus rien n'est conservé. Alors, il y a eu quand même des études, des tentatives pour dater d'après les dates des sites qui se trouvent au-delà et en deçà du mur, mais le seul ouvrage un peu général est un vieux livre en ouzbek, et je dois dire que je n'ai pas encore pu me le procurer, mais il semblerait qu'il n'y ait pas eu autre chose. Voilà ce qu'on peut dire sur ce mur que donc nous adoptons comme limite probable de ces principautés. Ichtihan, j'ai déjà dit, donc au départ c'est le seul pays qui s'appelle Tsao, et puis après il y a eu un Tsao oriental qui est donc c'est Kaboudanjaket, Tsao oriental,
Non, ça en
central, central, et un Tsao du nord qui est l'Oustrouchana. Bien. Kaboudanjaket, donc oui, j'ai dit que ça n'avait pas de nom de principauté. En fait, oui, quand ça émerge, c'est Tsao central. La capitale, alors il se trouve qu'il y a un grand site archéologique dans la zone qui s'appelle aujourd'hui Koumechkent. C'est un grand site, une grande citadelle. Il n'a pas été fouillé. Il y a eu simplement des sondages stratigraphiques qui montrent une séquence assez longue, mais qui semble démarrer justement vers ces époques, hein, au Moyen Âge. Le site s'appelle Koumechkent. En ouzbek, ça veut dire la ville d'argent. Et l'hypothèse que je fais, je crois que je ne suis pas le premier à la faire d'ailleurs, c'est que c'est une étymologie populaire sur Kaboudanjaket. Kaboudanjaket, Ket. C'est Kaboudanjket. Ket, c'est la ville. Kaboudanj, ça veut dire bleu. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelait ça le pays bleu? Peut-être en rapport avec le nom de la rivière, enfin le qualificatif de la rivière. Bien. On a des formes, semble-t-il, intermédiaires entre Kaboudanjket et Koumechkent qui nous sont transmises dans des sources médiévales, notamment le dictionnaire, le répertoire de Samani, 12e siècle, très utile pour la géographie historique. Ce livre s'intitule, en arabe, c'est le livre des généalogies. En fait, il s'intéresse aux généalogies des cheikhs, des oulémas, etc. Mais à chaque fois, il y a une remarque, une petite notice géographique sur leur lieu d'origine. Et donc, il nous donne une liste bien complète de une grande quantité de toponymes pour cette époque. Il en donne beaucoup plus que ce qu'on trouve dans les grands géographes comme Istakhri, Ibn Hawqal, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur Ichtihan. Alors, autre chose sur Ichtihan, c'est que nous savons qu'après la prise de Samarcande en 712, les souverains de Samarcande, les Irchides, ne sont pas revenus à Samarcande, ils se sont réfugiés à Ichtihan. Ce n'est pas dit tout au début, mais on voit après que l'Irchide de Sogdiane demande à l'empereur de Chine de reconnaître son fils comme roi d'Ichtihan après sa mort, etc. Donc, on pense assez sérieusement qu'ils étaient là. Et puis, on a une confirmation épigraphique hypothétique. C'est qu'au moment de la construction du palais du dernier gouverneur omeyyade à Samarcande, on a une série de briques cuites qui portent le tampon Irchid et d'autres portent le tampon Ichtihan. Et l'hypothèse que j'ai faite, c'est que comme les anciens rois locaux étaient toujours chargés de la collection, de la collecte de l'impôt foncier, comme le gouverneur cette année-là avait besoin de briques pour faire construire son palais, une partie de l'impôt a été convertie en nature. Et donc ce serait l'ex-souverain de Samarcande qui aurait fourni. Peut-être il avait accès à des fours, ils étaient rares à l'époque, les fours à briques. Il aurait donc, ce qui expliquerait que sur le tampon voisine son titre royal, le nom Ichtihan, et un troisième mot qui semblerait être celui de l'administrateur financier de Samarcande à cette époque. c'est toute une argumentation que je ne développe pas particulièrement ici. Donc, ensuite, on a donc, le Tsao central, et puis des petits pays, la Bouzmadjan qui n'a jamais été une grande principauté. Un problème avec Maïmoug, mais on va voir ça après, peut-être, c'est dans l'animation. Hein. Pour le moment, donc, est-ce que je commente Shu et Shu? Oui. Alors, bon, le Tsao, à un certain moment, on voit émerger un Tsao du Nord, et donc il y a trois Tsao, hein, occidental, central et du Nord, qui est le grand pays d'Oustrouchana. Alors là, c'est une grande principauté sur les piémonts de pâturage, sur les piémonts nord de la chaîne dite du Turkestan. Je commente rapidement. Oustrouchana, c'est un nom qui veut probablement dire le pays des pâturages. Et cette principauté va jouer un rôle extrêmement important au moment de la conquête arabe. Elle est visiblement puissante militairement. Et ensuite, puisque le souverain d'Oustrouchana va à un certain moment, à la tête de ses troupes d'élite, devenir le principal général du calife dans les années 830-840. Bien. Ensuite, donc, Shu, qui correspond à... qui transcrit, en fait, Kesh, lequel était l'ancien nom, jusqu'au Moyen-Âge, de l'oasis, qui s'appelle aujourd'hui Shahrisabz, et qui est bien connu en Ouzbékistan, puisque c'est la ville natale de Tamerlan. C'est une zone bien explorée archéologiquement, dont la capitale a, semble-t-il, changé de localisation au cours du temps, je n'insiste pas là-dessus. Et puis, au nord, on a donc... Voilà, ça, c'est une... Je reviens à une carte qui reflète, en fait, une réalité politique plus ancienne, hein, puisque cette carte, je l'ai publiée en appendice de l'édition des inscriptions de Kultobé, très au nord. Bon, je reviens rapidement là-dessus. Les inscriptions de Kultobé sont les plus anciens témoignages de la langue sogdienne. Et ces inscriptions sont des inscriptions de fondation, de colonisation, mentionnent en fait une entreprise militaire et coloniale conjointe par cinq principautés, l'une étant Tchatch, Tashkent, qui n'a pas de souverain, simplement un général en chef, et quatre autres, ce que j'appelle la tétrapole sogdienne, qui, elles, chacune, ont un souverain qui porte le titre non pas de roi, mais de seigneur. Et ces quatre cités sont Samarkand, Boukhara, qui ne s'appelle pas encore Boukhara, mais Nawak Methan, la nouvelle ville, Kesh et Narchab, aujourd'hui Karchi. Voilà. Donc, ça permet de le. On voit que ça situe cet ensemble de politiques. On voit que déjà à ce moment-là, on a ce que peut-être une galaxie politique sogdienne de principautés, royaumes indépendants, mais plus ou moins fédérés, dans le cadre lâche de la grande confédération nomade des Kankyu, on va être amené à en reparler, mais visiblement, ils sont en train de s'émanciper. En fait, dans ces inscriptions, on voit déjà apparaître la structure politique qui va être celle de la Sogdiane jusqu'à l'époque islamique. Et j'ai mis comme date 2e, 3e siècle, parce qu'il y a une grande marge d'incertitude sur la date des inscriptions de Kultobé. Avec Nicolas Sims Williams, avec qui nous sommes en train de les rééditer, nous penchons pour le 2e siècle. Bon, mais ça pourrait être aussi le 3e. Petit commentaire sur Tchatch. Tashkent, bon, c'est la ville principale aujourd'hui, c'est la capitale de l'Ouzbékistan, mais elle n'existe pas encore sous ce nom. Hein. Ça s'appelle Binket, et ça n'a pas l'air d'être un site très important, un site urbain très important. Le principal site est là, beaucoup plus au sud, près du Sirdaria. S'appelle encore aujourd'hui Kanka, et nous pensons avec Nicolas Sims Williams qu'en fait ça vient de l'ancien nom de la grande confédération du Kankyu, Alors là, il y a eu des fouilles importantes. C'est un site majeur. Et nos collègues archéologues d'Ouzbékistan pensent que jusqu'au 7e siècle, la capitale du Tchad se trouve là. Et que c'est ensuite qu'elle a migré plus au nord. Il y a quelques arguments qu'on peut tirer de détails topographiques donnés dans les notices chinoises sur le Tchad. On sera amené à revenir là-dessus ensuite. Bon, j'ai dit, je pense, ce qu'il fallait dire là-dessus. Maïmourg, tu donnes l'image maintenant ou,
C'est ici, avec la cité de Maïmourg.
Historique. Oui, voilà, le problème de Maïmourg. Alors, Maïmourg pose un problème spécial. Bien, on sait où c'est, c'est au sud-est de Samarcande. Dans la partie, en fait, ça correspond très bien à la partie haute du grand canal du Dargom qui fournit pratiquement toute l'eau disponible dans la grande oasis de Samarcande. Alors, Maïmourg s'appelle Mi dans les sources chinoises, donc c'est le premier élément, Maï. Ça veut probablement dire la plaine, la vallée, bien. Maïmourg émerge à partir du 6e siècle, 7e siècle. La ville de Maïmourg est toujours mentionnée à l'époque islamique, on voit que ça a l'air de correspondre à un site archéologique qui s'appelle Kuldor Tepe, qui a été étudié, qui est un grand site. A priori, ça ne poserait pas de problème. Mais il y a quand même un problème. C'est jusqu'où ça allait à l'est. Il y a là un endroit très stratégique, Waraksar. Ça veut dire la tête du barrage. C'est l'endroit où se trouve le barrage qui commandait la totalité de l'irrigation en aval, à la fois le canal du sud, le Dargom, et le canal du nord. En gros, celui qui tient Waraksar tient la Sogdiane centrale. Et ça, les conquérants arabes l'ont très vite compris. Ils ont envoyé assez souvent des expéditions sur Waraksar, endroit très disputé, mais dépendant de qui ? Alors, ça aurait pu fluctuer. À certains moments, Penjikent, à certains moments, Maïmourg. Sur Penjikent, il y a un problème, c'est qu'à un certain moment, on nous dit dans les sources chinoises que la capitale de Maïmourg s'appelle Bosidé. Ce qui, en early Middle Chinese ou late Middle Chinese, je ne sais plus, peut se reconstruire comme Patsiktak. Paksiktak. L'idée a germé depuis pas mal de temps que c'était peut-être bien Penjikent, qui sinon ne serait absolument jamais mentionné dans aucun texte chinois. Ce qui est quand même gênant, sachant qu'aujourd'hui, c'est le site archéologique le mieux connu. En même temps, c'est vrai, Penjikent est très bien connu, mais n'était pas une ville extrêmement importante. On n'a jamais eu plus que 6 000, 7 000 habitants, d'après les estimations des archéologues. Alors, Patsiktak, Penjikent. Alors, Yoshida, au départ, pensait que Patsiktak pourrait très bien transcrire un mot sogdien, Patsartag, qui veut dire réparer. Alors, d'où son idée ? Penjikent a été incendié en 722 lors de sa prise par les Arabes. Dans les années, un peu plus tard, on voit qu'une partie de la ville est restaurée, réparée, reconstruite. Donc ce serait la ville reconstruite. Je n'y crois pas. Et Marchak n'y croyait pas non plus. Alors, avec Étienne, nous avons plutôt supposé que c'était peut-être une transcription déformée ou peut-être avec des caractères corrompus de Penjikent. Yoshida nous dit que c'est pas possible. Voilà, donc pour le moment on en est là, incertitude sur la frontière orientale de Maïmourg. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter là ? Oui, alors on passe à la vue suivante. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, Chao
Tong.
Oui,
je pense.
Donc voilà, j'ai déjà parlé de ça, à propos surtout de Tchatch. Donc vous voyez, si on situe là ce qui va plus tard apparaître comme la liste conventionnelle des grands royaumes, des royaumes sogdiens qui envoient des ambassades à la Chine, on a donc Bukhara, Han, on a Kushaniya, He, on a Ichtihan, Cao, Central, on a Samarkand, Kang, on a au sud-est de Samarkand, pas marqué ici, Maimurg, on a donc She, Kesh, Nakhchab n'est pas mentionné, n'apparaît jamais comme principauté indépendante, mais le nom figure dans les sources chinoises. Et puis, on a donc dans cette zone Cao septentrionale ou Strushana, Tchatch Kanka. Voilà. Alors, la suite.
Moi, c'est ma partie.
Oui, alors. Exactement. Une présentation maintenant de l'auteur et du caractère du Tang Tien, dont l'utilisation comme source historique doit s'entourer de quelques précautions.
Merci. Donc maintenant, je parle plus en anglais pour une discussion plus efficace et plus internationale. So, Du Yao was from.
On avait dit a small break là. Est-ce qu'on fait a small
oui,
break?
Si vous voulez. Donc je répète. So, Du Yao was from an educated family, and many relatives in his clan were high rank officers, and he started to serve the government at a young age. During the last 10 years before his death, that is to say, after he presented the Tongdian to the emperor, he was the prime minister of the Tang Dynasty. One can read his biography in Zhou Tang Shu and Xin Tang Shu, but actually many works written in Tang and Song period can be found with traces of his comments and activities. So in Eastern Asia, there are a lot of studies focusing on his life and achievements. In our seminar, I shall only point out some facts or records important to our topic. They shall help us to evaluate the credibility of his writing and compilation. Last week, I expressed that Tongdian is not a historical work in a strict sense. In one phrase, it is an encyclopedia of political affairs presented to the emperor for the purpose of ruling the empire. Therefore, the part concerning the western regions is generally more like a treatise of geography. On the other hand, traditional Chinese historical works have some characteristic features, which were established by the Shi Ji and the Han Shu. The authors of traditional chronicles were either official historian or private ones, but in any case, their basic purpose was to organize the data of their times or of the previous dynasties with their historical view. Some of them followed the official view of their days, and some others were far more critical. Structurally, the Tongdian does not contain the parts for basic annals and chronological tables. It is closer to the treatise, being divided into 9 categories. Among the whole 200 juans or chapters, our selected texts concerning Sogdiana are all in the juan 193, being one of the 16 chapters about the border defense in yellow of the Tang Empire. In this category, the practical facts about foreign peoples and states are treated, but it is only a very small part of this huge book.
Oui, alors ce qu'on peut dire, on dit traité, ouais, je dirais, en français, je traduirais plutôt monographie, parce qu'en fait, c'est un compendium de... je trouve le terme traité est peut-être un peu trompeur en français, parce qu'on pourrait croire que c'est la source... Enfin, que le texte reproduit systématiquement les traités conclus entre la Chine et les autres peuples. Or, c'est pas ça, parce que c'est aussi l'autre sens du français traité. C'est plutôt ce sont des monographies. Et quelque chose qui peut aider à penser le concept d'un ouvrage comme celui-là, c'est ce que les Anglais produisaient dans leurs colonies, notamment en Inde, sur le terme de gazetteur. Le gazetteur des Britanniques, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un ensemble de monographies à caractère pratique, qui peuvent être très détaillées et qui vont rassembler le savoir politique, géographique, économique, avec également des éléments biographiques, quels sont dans ce district les personnages qui sont favorables à la politique anglaise, quels sont ceux dont il faut se méfier. Les Anglais ont produit une énorme masse de gazetteurs, dont certaines parties étaient publiées et publiques, et d'autres parties étaient secrètes. Et après, maintenant, toutes ces archives s'ouvrent. On voit par exemple que on a un Gazetteur of Afghanistan où on trouve toutes sortes d'informations intéressantes pour l'archéologue, parce que ça rassemble absolument tout, mais pas du tout dans un ordre chronologique ni véritablement logique. C'est un compendium de savoir. Alors, là, c'est...
OK. Although Le Tong Dian is, strictly speaking, not a history, I would say that our texts are an excellent patchwork of early sources and contemporary ones, because actually our author, Du You, he had a good historical view and knew how to select the data. We know that during the period of the Northern and Southern dynasties, many history appeared. For example, the Wei Shu indicated by Franz last week was a history compiled by Wei Shou. He was charged with this task by the emperor of the Northern Qi soon after the rise of these dynasties. In that time, there were abundant material accumulated in the Northern Wei court available for this project. And in the view of the Northern Qi, they were the legal successor of the Eastern Wei, and the Eastern Wei are legal successor of the Northern Wei. So the new ruler has the right to compose the history of the preceding dynasties. On the other hand, the founder of the Tang once served the court of Northern Zhou. Soon after the unification of China by him and his sons, the histories of several preceding dynasties were officially compiled in their view. The Jin Shu, Zhou Shu, Sui Shu, Nan Shu, and Bei Shi are all the results of this big project. Their spread caused the loss of a lot of earlier works, including many chapters of the Wei Shu. Nevertheless, until the late 8th century, some of them were still available. Therefore, we found precious quotations and digests of these works. The first example indicated in last week is very probably a quotation of the lost chapters of the original Wei Shu. When the Tang official historian compiled the Bei Shi, namely the history of the Northern dynasties, by condensing and rephrasing previous works, they did not preserve this very statement. Hence, this sentence is absent in the current edition of the Wei Shu edited by the Zhonghua Book Company, because this one was reconstituted from the Bei Shi and some other works in late medieval period. Etienne de la Vessie has provided a clear diagram on this process. And here I fulfill with a time frame. Actually, modern Japanese and Chinese scholars had invested huge efforts to analyze and restore the lost chapters of the Wei Shu concerning the Western regions, such as these ones. And when I was invited by Harry Falk, Hans Becker, and Emer Galambos to edit the Kidarite and the Hephthalite in Chinese sources, I was much profit by them. But I was also, I also provided my view regarding with some issues. An example is another statement in the Tong Dian on the early history of Sogdiana. So here I read my English translation improved by Galambos in the Hunan book and Etienne's French translation. So what I and Galambo translate is the history of later Wei says. Initially, the Xiongnu killed the king of Sud, and took the state. At the beginning of the reign of Emperor Wen Cheng, an embassy was sent to pay tributes. At that time, the king of this state was called Hu Ni, and since the conquest until his reign, there have been three generations. And what Etienne translates is Le Wei Shu dit que le Xiongnu ont tué le roi de Sogdiana et pris le pays. Durant le règne du Wen Cheng, ils envoyèrent pour la première fois un émissaire à la cour avec le tribut. Le roi Hu Ni était le troisième de la ligne. So I think France will give some comments at first and then we go in. Into
oui.
This text.
Alors, bien, cette notice est précise puisque on voit que ça nous situe le début des rapports politiques réguliers entre les Wei. Et Samarcande, au début du règne de Wen Cheng, je crois que maintenant on s'arrête à une date peut-être de 467 pour cet échange d'ambassade. Malgré tout, le texte pose un problème. La fin du texte pose un problème et qui a été beaucoup discuté notre colloque à Budapest, dont est sorti le livre Hunan Sourcebook. Sans, je crois, qu'on arrive véritablement à une solution qui s'impose. Parce que, bien, on pourra revenir sur les termes, les mots chinois utilisés, mais ça peut se comprendre. Depuis la conquête des Huns jusqu'à l'envoi de cette ambassade, ça peut se comprendre trois générations. Bon, alors là... c'est assez près. Donc, le souverain régnant serait le petit-fils de celui qui a fait la conquête. Et ça nous donne, du coup, ça nous autorise à postuler un espace de temps de 50 ans environ. Voilà. Mais on peut aussi comprendre, une autre façon de comprendre, c'est le troisième de la lignée. C'est-à-dire pas forcément le grand-père, le fils, le petit-fils. Le troisième roi. Et là, ça change tout, parce qu'on peut tout à fait, du coup, imaginer des successions de frère à frère. Et ça nous fait ça nous conduirait à raccourcir l'espace de temps général. Je crois qu'il n'y a pas de solution qui s'impose véritablement et que le texte chinois peut se comprendre des deux façons.
Yes, I should specify that here the EMC means Early Middle Chinese by Pauli Blanc, and MC with the subscript BS means Middle Chinese, reconstituted by Calgren but revised by Baxter Saga. And for the problem with regard to the three generations or the third in the line, actually they are more solution than this, and there is also some debate. And if we have time, we can give a topic as I gave in 2017. And actually, many scholars have different opinion. So here, there have been three generations given in the Hunan book. It's just a preliminary one, and I should give a question mark after that. So in the Tongdian, this statement is found in the entry on Yan Cai, usually identified with ROC, because our author inherits the mistake of confusing this nomadic state or people, which firstly appeared in Chinese sources in the 2nd century before Common Era with later Sogdiana. This mistake was probably made by the compilers of the original Wei Shu, or even by the Chinese envoys in the middle 5th century, we don't know. There were also debates among Chinese and Japanese scholars over this issue. So, your comment.
Alors, si on n'a pas, on n'a pas la, On n'a pas l'orthographe sur le PowerPoint. Non, on ne l'a, l'a pas inséré. Oui, alors, c'est dans cette entrée sur la Sogdienne se trouve donc dans le, à l'intérieur de l'entrée sur le peuple des Yantzai. Ce qui pose un problème, parce que ce n'est pas du tout au même endroit. Yantzai, c'est depuis le Hanshu, c'est un peuple qu'on situe au nord-est de la mer d'Aral. Hein, un peu, enfin, disons, voilà, vaguement, ça a l'air d'être dans cette direction. Ils ont l'air d'être à l'extrémité nord-ouest de la zone vraiment connue par les Chinois. Alors, il se trouve qu'on arrive quand même à retrouver la forme qui est derrière Yantzai. Ça correspondrait assez bien à un nom de peuple qui nous est transmis par les sources grecques, les textes grecs sur les événements à la fin de la période grecque en Bactriane, le peuple des Aorsi. Aorsi. Alors il se trouve que c'est un nom qu'on suit pendant longtemps. Aorsi, ensuite on a Az. Bien. Et très tôt, on voit que c'est couplé avec le nom d'un autre peuple, qui sont les Alains. On a même un nom hybride, à un certain moment, qui apparaît, je crois, dans les sources byzantines, les Orsi-Alani. On a l'impression d'un peuple qui aurait été composé de deux éléments principaux, une confédération. Ce sont des exemples qu'on retrouvera après dans l'histoire de la steppe, avec des confédérations qui continuent à unifier le nom de deux peuples. Bien, mais encore une fois, c'est pas, on ne se situe pas du tout dans la région de Samarcande. On est sur le Bassir Daria, et ces Aors-Alains vont finir par migrer à l'ouest, poussés par la migration des Huns. Ils vont finir par se retrouver dans le Caucase. Et puis de là, certains vont partir vers le Danube. Alors, les sources médiévales sur la région danubienne continuent à associer les deux noms. Alors, ceux qui se sont retrouvés dans le Caucase, eh bien, ils existent encore, puisque les Ossètes aujourd'hui, ils ont le nom des Aorsi, avec T, qui est le pluriel iranien. Le pluriel, disons, site. Les Ossètes, ce sont les descendants des Aorsi. Et ce qui est intéressant, c'est que les Ossètes parlent l'ancienne langue des Sites. Donc on voit que ces gens-là ne parlaient pas, n'étaient pas des turcophones, ne parlaient pas des langues altaïques, mais parlaient la branche septentrionale des langues iraniennes. Alors après, bon, les listes. Mais alors, chez les Ossètes, justement, une des branches de. Ils ont deux dialectes, en fait. Et l'un des dialectes s'appelle l'Alon, la langue des Alains. Et l'autre s'appelle le Digor, c'est-à-dire le deuxième dialecte. Bon, à un certain moment, les aventures de ces Alains. Les Alains, c'est un peuple qui a eu un destin absolument extraordinaire, parce que certains ont été en fait incorporés par les Huns d'Attila et l'ont accompagné à l'ouest. Et on a eu des colonies d'Alains en France. Il semblerait que le prénom Alain, au départ, qui est spécifique à la Bretagne, vient d'eux. Bien. D'un autre côté, des Alains du Caucase qui étaient restés là, ou peut-être parfois dans la steppe du Kouban, plus au nord, se sont retrouvés chez Kubilai Khan, en Chine. Je crois qu'ils avaient été faits prisonniers lors d'une campagne, ou envoyés comme mercenaires, ou je ne sais pas. Ils se retrouvent à Pékin, et les évêques de Pékin, les évêques franciscains de Pékin à l'époque de la dynastie Yuan ont surtout leurs fidèles parmi les Alains. Voilà, ils ont un destin extraordinaire et ils trouvent bon, voilà, que la notice du Tongtian sur Samarcande a l'air de situer Samarcande dans le pays des Alains, ce qui, là, ne peut se comprendre que par une confusion des noms.
So, made a final remark of this paragraph that, as you can see, I translate literally the beginning Hou Wei Shi as the history of Later Wei. So, but as most scholars believe that this history of Later Wei, Hou Wei Shi, is exactly the lost Wei Shu, so this opinion has been revealed in Etienne de la Vessie's French translation. Okay, and more notes from Franz Connet and Nicolas Sings-Williams are provided in the Hunnar source book. Oui.
Alors là, il s'agit d'un matériau archéologique. La vue suivante. Bon, déjà, pour situer, voilà, par rapport à ce que j'expliquais, une carte très grossière, hein, très grossière, que j'ai publiée, mais qui n'est pas autre chose qu'un guide général, un essai. Ça prétend pas du tout à la précision, mais c'est pour montrer, pour tenter de visualiser la migration des Huns à partir de la deuxième moitié du IVe siècle. Alors, donc là, je dis tout de suite, j'adopte les vues d'Étienne de la Vessière, qui sont que les Huns, connus à la fois donc chez nous comme les Huns d'Europe, et les peuples connus ou autodésignés comme Huns, qu'on trouve après en Asie centrale, jusque dans le nord de l'Inde, et puis aussi les Chionites qu'on nous décrit dans l'armée sassanide en 359, c'est le même mot, ça vient de Hun. Chionite, en fait, on sait très bien, c'est une adaptation occidentale, bon, iranienne, en fait. Et que ces Huns sont les héritiers historiques d'une partie du peuple... de l'immense peuple des Xiongnu, qui politiquement se trouve en désintégration à partir du IIe siècle, mais dont certains éléments ont pu continuer dans l'Altaï à conserver non seulement le nom, mais des éléments de culture matérielle, des éléments de nomastique et une autodésignation. Bon, bien entendu, personne ne va dire que les différentes branches historiques des Huns sont authentiquement, biologiquement, linguistiquement des Xiongnu. ça a évolué. Les Xiongnu semblent avoir une onomastique, une langue qui se rattache plutôt aux langues turques d'un côté, mais d'après certains témoignages, il y aurait aussi des éléments de langue sibérienne. Les Chionites, quand on a des noms, ce sont des noms de type iranien du Nord, de type scythique. Donc il y a eu évidemment des mélanges, des métissages, etc. Mais donc, en gros, voilà comment on pourrait visualiser les choses. Choc de départ vers le milieu du IVe siècle. Bon, alors, je n'insiste pas là-dessus. Pour quelles raisons? Actuellement, ce qui est tout à fait à la mode, ce sont les modèles climatologiques. Et effectivement, on constate un assèchement, des hivers plus froids, etc., qui semblent se produire dans cette zone au IVe siècle. Ce qui permet de penser cela, ce sont des prélèvements faits dans les lacs de la région de Touva, qui semble indiquer une péjoration du climat à cette époque. Actuellement, c'est le modèle qui, disons, tient la corde. Alors, départ vers l'ouest, et à ce moment-là, à un certain moment, il y aurait donc une branche qui part vers le sud, que les Sassanides semblent affronter à partir de 350-360, quand, avec le roi Shapur II qui s'installe à Merv, pour combattre ces peuples. Et là, dans les sources, on a donc le nom Chionite, qui donc est une forme du nom des Huns. Et puis, vers le début du Ve siècle, nous avons donc notre ami Attila et les Huns d'Occident qui apparaissent. Et on a un indice chronologique dont j'avais discuté avec Peter Golden, qui est assez convaincu de cela. C'est le nom d'Attila. Parce que le nom d'Attila, c'est le nom turc de la Volga. Et ça pourrait indiquer que le clan auquel appartenait Attila aurait franchi la Volga à l'époque où il naissait. Et il aurait été baptisé, il aurait été nommé d'après le fleuve que franchissait son peuple à ce moment-là. Et du coup, ça nous donne un repère, puisque Attila meurt vers, vers 430, 440. Il est assez âgé, donc ça indiquerait que son clan aurait franchi, disons, vers la fin du IVe siècle, aurait franchi la Volga dans sa marche vers l'ouest. Semble-t-il, ça correspond assez bien à des découvertes que font maintenant les archéologues du Kazakhstan qui travaillent sur les bords de la mer Caspienne, qui semblent avoir identifié la trace du passage des Huns, notamment dans les nécropoles. Bon, alors, ensuite, donc, une branche part vers le sud, affronte les Sassanides, mais on voit par des éléments de culture matérielle que ces migrations, on comprenne aussi un élément plus local, la culture de Djeti Assar, en fait, dans les zones où se trouvaient les Alains et les Ahors auparavant. Là, on voit ça par la céramique, hein, et puis des éléments de culture matérielle. Cette zone se dessèche à ce moment-là, justement. Il y a des perturbations climatiques. Et des éléments auraient participé à cette migration. Et puis, on les à un moment, Shapur II les bat ou fait alliance avec eux. Nous en avons la preuve, parce qu'en 359, l'historien Amien Marcellin est témoin oculaire de la présence des Kionites dans l'armée sassanide lors du siège de la ville d'Amida, aujourd'hui Diyarbakır. Et là, il nous donne des renseignements très intéressants. Leur chef s'appelle Grumbates, c'est un nom iranien, protégé par le dieu Vahram. On retrouve le même nom Grumbates dans les archives du royaume de Rome en Bactriane. Donc on voit bien qu'il s'agit là des mêmes. Alors, ils ont une onomastique iranienne, mais quand le fils du roi Grumbates est tué sous les murs de Amida, on fait un grand bûcher. On pratique donc la crémation, qui, elle, semble plutôt une pratique attachée au peuple altaïque. Ni les Iraniens, ni les Scythes ne pratiquaient la crémation. C'est une pratique. Donc voilà, on voit très bien que l'identité, s'il y en a une, ne peut pas véritablement être cernée à ces époques. Et puis, alors, on les suit par les monnaies. Bon, alors, bon, tout un problème, il y a des légendes. Les monnaies qui se sont émises à ce moment-là dans la région de Kaboul, à partir de la fin du IVe siècle, portent une légende Al-Khan. Alors, est-ce que ça veut dire les Huns rouges? Est-ce que ça veut dire autre chose? Ça, c'est une discussion, c'est une des nombreuses discussions que nous avons avec les numismates. Mais voilà, en gros, très grossièrement, la façon dont on peut visualiser les choses. Alors, la suite. Alors, un document archéologique absolument extraordinaire et qui a été en réalité qui a ouvert des clés, c'est ce sceau. C'est une empreinte de sceau qui ne vient pas de Samarcande, qui ne vient pas de Sogdiane, qui a été trouvé, semble-t-il, parce que c'est apparu sur le marché des antiquités. Il aurait été trouvé dans la région du Bunner, au Pakistan, c'est-à-dire c'est à côté de la vallée du Swat. Mais on sait qu'originellement, ces sceaux viennent de Samarcande. Parce qu'entre-temps, on en a trouvé des assez semblables, malheureusement avec une légende beaucoup moins bien conservée, dans la fouille du château de Kafirkala, à 10 km de Samarcande. Kafirkala, dont on en est sûr maintenant, est la résidence royale hors les murs de plusieurs dynasties successives de Samarcande. Donc ça vient de Samarcande. Le fait qu'on ait retrouvé ce sceau au Bunner, enfin dans la région du Swat, peut s'expliquer parce que on sait que il y a eu cette zone appartenait aux Kidarites, lesquels étaient aussi à Samarcande au Ve siècle, et qu'il y a même eu un royaume Kidarite résiduel qui a duré un peu plus longtemps dans cette région du Swat. Donc les différentes branches de la famille devaient échanger des correspondances. Alors, ce qui c'est un mélange extraordinaire parce que le personnage est représenté comme un roi sassanide, avec les rubans qui flottent, etc., la couronne. Mais pour autant qu'on puisse en juger, il n'est pas barbu ni moustachu. Donc il est représenté comme un roi sassanide, mais on a évité de lui donner des traits physiques spécifiquement iraniens. Bon, la langue, alors c'est pas du sogdien, c'est du bactrien. D'où évidemment l'idée, puis on a d'autres raisons que nous allons voir dans un instant de le penser, que ce sceau en fait a été émis à un moment où la dynastie des Kidarites est à Samarcande. Et les Kidarites, on sait que historiquement, ils apparaissent d'abord en Bactriane, en 467, sur les piémonts Est, au même moment, 457. Ils interviennent dans les querelles de succession sur le trône d'Iran. Et au même moment, ce sont les Eftalites. Qu'est-ce que je veux dire ? Les Kidarites, on voit qu'ils commencent à apparaître de manière à peu près sûre autour des années 420. Voilà. C'est là que les Chinois commencent à en parler, à expliquer qu'ils ont commencé à faire des conquêtes en Inde du Nord, etc. Pour certains, ils apparaissent encore plus tôt, pour les numismates, mais bon, voilà, c'est un détail, c'est autour de 400. Mais ils apparaissent d'abord en Bactriane. Donc c'est en Bactriane que se serait formée leur confédération qui aurait unifié une partie des éléments kyonites, hein, parvenus lors de la migration précédente, et qui s'empare à ce moment-là de la Sogdiane et de Samarcande. Alors la légende confirme tout à fait ce qu'on pouvait supposer d'après l'iconographie comme d'après la langue employée. Le seigneur, roi des Reins Orlar, grand roi des couchants, Afshion de Samarcande. Et voilà la transcription du bactrien. Alors, je dis tout de suite, c'est une lecture qui n'est pas... Enfin, c'est une interprétation qui est la mienne, qui n'est pas la seule possible pour certains détails. Seigneur roi des Huns, il n'y a aucun problème. Honano, hein. C'est en fait ha, ça se prononce H. Honano, Hunano Shao en réalité. On lit Honano en bactrien. Mais en fait, U transcrit H et O transcrit U. C'est le roi des Huns avec un pluriel iranien. Hano. Roi des Huns. Roi des Huns, Oglargo. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce Oglar ? C'est probablement pas le nom du bonhomme, parce qu'il devait se trouver au tout début. Mais ça manque dans l'inscription. Donc ça indiquerait peut-être à quelle branche des Huns il appartient. Alors là, il y a plusieurs façons de comprendre. D'après Marcel Erdal, ce serait en fait le pluriel turc en lar de Ogul, qui veut dire fils. Oglu, en turc aujourd'hui. Ce seraient donc les Huns princiers, les fils, les Huns de la famille royale. Bon, la branche, peut-être la branche royale des Huns. Bien. Une autre façon de voir les choses, c'est de voir là le prototype du nom d'une des deux grandes confédérations de peuples turcs qu'on va retrouver ensuite, les Ogours et les Oghouzes. Et ce serait déjà les Ogours. Bon. En tout cas, ça a l'air de qualifier le mot Hun. Alors ensuite, la surprise continue. Grand roi des couchants. C'est aucun doute possible sur la façon dont il s'intitule. Et ensuite, alors là, la lecture est due à Étienne. On avait d'abord publié sans comprendre ce mot, mais en fait, Afshion. C'est l'origine du titre local des rois de Samarcande, attesté plus tard comme Afshin. Titre qu'on trouve aussi en Oustrouchana. Alors, d'où c'est, en fait, c'est le titre local. C'est-à-dire qu'au moment de la, au moment de la conquête arabe, le roi de Samarcande est Afshin de Samarcande et roi de Sogdiane. Donc on distingue très bien le vieux titre local et le titre royal qui s'applique en fait au royaume. Bien. Alors, l'origine Afshin est un mot, semble-t-il, iranien. Bon, on pense que c'est une... Quand on avait que la forme Afshin, on pensait que c'était une variante du mot sogdien Rshewan. Qui veut dire, qui est une des façons de dire roi, c'est une forme parallèle à Irshid, le mot sogdien habituel pour roi, sur la même racine iranienne, Rshay, qui veut dire exercer le pouvoir, et qui est à l'origine de, tout simplement du mot iranien actuel Shah. Voilà. Maintenant qu'on a Afshin, j'ai supposé que c'était peut-être. Autre chose, enfin, c'est toujours sur la même racine, un vieux mot, Chayamna, qui aurait le même sens. En tout cas, bon, c'est un titre qui n'est pas turc, qui n'est pas iranien de l'Ouest, qui est peut-être bien un vieux titre, disons, d'époque Kankyu, c'est-à-dire, voilà, avant ces époques-là, quand linguistiquement, à Samarcande, on est peut-être dans une situation iranienne du Nord, des langues apparentées aux langues scythes, à l'ossète, etc. Donc ça pourrait être la trace d'une strate antérieure à l'arrivée de ces nouvelles dynasties. Alors, ce qui est extrêmement intéressant là, c'est que établit une équivalence entre Hun et Kushan. Alors, il y a un seul peuple, une seule dynastie, dont on peut dire qu'il pouvait s'intituler à la fois Hun et Kushan. C'est donc les Kidarites. Pourquoi ? Parce que... on savait déjà... Ces Kidarites qu'on voit émerger en Bactriane vers 420 et qui finiront par être battus par les Eftalites vers 470, on savait déjà qu'ils étaient venus à Samarcande. Parce que dans la série des monnaies locales, on a cette monnaie représentée par quelques exemplaires où on lit le nom Kidara. La raison qui permet de penser qu'il s'agit... tu remontres le sceau. Les sources sur les monnaies que les Kidarites ont frappées en Inde, dans le Gandhara, on a le nom Kidara et roi des rois des Kushans. Donc ça fait le rapport entre Kidarites et Kushans. Ils sont la dernière dynastie à avoir revendiqué le nom de Kushans. Les Eftalites qui leur succéderont vont rejeter ce nom qui ne réapparaîtra plus. Bien. Alors, ça nous donne le signe égal entre Kidarites et Kushans. Quant au signe égal entre Hun et Kidarites, on l'a par l'historien byzantin Priscus, qui nous parle des Kidarites en tant qu'adversaires des Sassanides, comme Hun Kidarite. Donc, Hun égale Kidarite égale Kushans. Et voilà, c'est ce qui explique ce sceau, qui en plus donc est certainement associé à Samarcande, preuve évidente qu'à un certain moment, ils sont arrivés du sud, ils ont apporté leur propre langue de chancellerie, et ça c'est quand même assez extraordinaire, parce que le sogdien était bien établi comme langue officielle et langue de chancellerie à Samarcande depuis des siècles. Ils importent leur langue de chancellerie, qui est le bactrien, et ils émettent ce sceau. Alors, ça va nous permettre aussi, du coup, d'expliquer une des mentions dans le... c'est dans le Tongtian ou Wenasha. On en parle maintenant ?
Plus tard.
Alors, on va en parler après. Donc, la présence kidarite à Samarcande. On a cette monnaie, on a ce sceau, la suite. Et voilà, alors c'est très confus, hein, très confus, mais c'est intéressant. C'est une peinture qui est mal conservée, qui était dans la cella d'un grand temple à Djartépé, à mi-chemin entre Samarcande et Penjikent. En fait, c'est tout près du barrage qui commandait les grands canaux de la Sogdiane. Et on est également dans une zone où on sait que plus tard, se trouve une grande réserve de chasse. Et on voit ici une chasse à la panthère, avec en haut, alors je vous demande de croire les légendes que j'indique là, on a deux divinités qui sont sur un trône porté par des lions. Voilà un lion ici. Et un lion, voilà, plus près, voilà. Un lion ici et un lion ici. Et sur ce trône se trouvent deux divinités. L'une d'elles est une femme avec un grand manteau. C'est très certainement Nana, la grande déesse de la Sogdiane, qui a un trône de lion. Et l'autre est probablement son compagnon, son parèdre, Tishtria, le dieu de la pluie. On les trouve associés sur d'autres documents. Et en bas, on a une scène de chasse. Alors pourquoi mettre la chasse sous la dépendance de ces divinités ? Bon, ce sont des divinités qui commandent l'arrivée de l'eau, et la chasse suppose que le gibier a de quoi boire et de quoi manger, mais plus précisément, Tishtria, le dieu de la pluie et de l'étoile Sirius, est mentionné dans l'Avesta comme celui qui pourvoit l'abondance du gibier de montagne. Et c'est certainement le lien qu'on trouve ici. Et là, nous avons une chasse à la panthère des neiges. Je crois qu'il y a une panthère. Et un. Tu peux donner l'image plus grande, Chao Zhang. On voit une panthère et des mouflons. Voilà, mouflons, peut-être ibex, oui, ou un nagre, et panthère des neiges. Donc, une faune locale. Et là un ibex, oui, une antilope. Et les personnages qui chassent, tu donnes le détail. La photo agrandie. Voilà. Vous voyez leur profil, assez intéressant. Ce ne sont pas encore des Turcs. Quand les Turcs vont arriver vers 560, ils vont se caractériser par de longs cheveux et de longues nattes. Les Turcs ne sont pas encore là. On est avant. Donc on est peut-être bien sous les Kidarites. Et on voit aussi que ils ont quand même les cheveux, bien que n'ayant pas les cheveux longs, ils ont les cheveux rassemblés en tresses. On peut penser que c'est une aristocratie locale mixte, où se trouvent à la fois des Sogdiens et peut-être des conquérants kidarites. Une des raisons qu'on a de penser ça, ce sont les inscriptions sogdiennes laissées par les marchands sur le Haut Indus, où à cette époque, on voit des gens qui s'appellent, qui ont des noms sogdiens, mais fils de Hun ou père de Hun. Donc, on a une introduction de gens qui s'intitulent comme Hun dans des grandes familles marchandes de Samarcande. Donc, on voit très bien qu'il y a là un métissage qui se produit, une fusion des aristocraties. Donc, c'est probablement ce que nous avons là. On a ensuite des documents plus tardifs à Samarcande qui nous montrent clairement, et Penjikent, qui nous montre clairement que les aristocraties locales deviennent turques, avec leurs grands cheveux à nattes. Mais ce n'est pas encore le cas ici. Donc c'est probablement un témoignage de plus de l'époque kidarite. Pour Wenacha, on va peut-être en discuter la prochaine fois. Maintenant,
oui.
Hein, parce qu'on est arrivé. Oui, donc, je l'avais mentionné, le sceau de Samarcande donne l'explication du nom des rois de Samarcande dans le passage récupéré dans le Tangtien. Mm-hmm. C'est grâce à et ça nous donne là, c'est rare, mais là ça nous donne un synchronisme absolument parfait. On va en parler la prochaine fois.